Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Franck, rédacteur en chef chez Bouscapé, et tu t'apprêtes à écouter La Vraie Interview avec Emmanuel Macron. C'est un épisode hors série de notre concept La Vraie Interview, durant lequel Kersh de Rap Elite et Nesrine Slawi ont interviewé le président candidat à sa réélection à quelques jours du second tour. Bonne écoute.
Bonjour.
Bonjour Monsieur Macron, vous êtes candidat à votre réélection avec un duel encore une fois comme en 2017 face à Marine Le Pen. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses se sont normalisées du côté de l'extrême droite. Vous, il y a 5 ans, vous étiez perçu comme un nouveau politicien, même si vous étiez ministre avant, vous étiez le jeune, dynamique. Vous étiez vu comme un espoir aussi sur plein de sujets, on va le dire sur la laïcité notamment. Donc on est là aujourd'hui avec Kersh pour parler de choses qui sont passées pendant vos quinquennats, qu'on revienne dessus, qu'on ait aussi un regard de votre part a posteriori, et aussi pour vous demander les choses que vous voulez faire pour le prochain quinquennat, donc si vous êtes réélu ce dimanche.
Exactement. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer comment est-ce que vous vous sentez dans cette France aussi qui est fracturée, qui est divisée, on l'a vu au premier tour ?
D'abord, je considère que j'ai une responsabilité, parce que moi je considère que le projet que porte Madame Le Pen est un projet d'extrême droite. J'ai essayé de le dire dans le débat, de le démontrer. Je pense que c'est pas un gros mot, c'est une réalité. J'en combats les idées, j'en respecte évidemment à la fois les électeurs et les dirigeants. Mon ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de colère. Et que ces colères sont de nature très différente. Et que les extrêmes ont un avantage. C'est qu'elles captent la colère plus simplement que quand on est en plus sortant.
Est-ce que vous avez un gros regret ? Est-ce qu'il y a une chose, une politique que vous auriez aimé mener autrement, a posteriori, comme ça ?
Je vais vous dire, mes regrets principaux, ils sont sur le de ne pas avoir fait les choses assez vite et fort sur beaucoup de sujets.
Lesquels ?
Sur la santé, par exemple. Je pense que les intuitions de la stratégie que je pose en 2018 sont toutes bonnes. Ça va beaucoup trop lentement. Et on n'investit pas assez. Et pareil sur les quartiers.
On va commencer par le premier thème, justement. C'est l'islamophobie.
Oui.
En 2020, selon le CNCDH, les actes racistes ayant visé la communauté musulmane ont augmenté de 52%. Ça dénote quand même d'un climat assez nauséabond en France. Est-ce que vous assumez, M. Macron, vous et une partie de votre gouvernement, ce climat, la responsabilité que vous avez dans ce climat ?
Nous avons un sujet. Il faut regarder les choses en face. La France, c'est une vieille nation qui, d'abord, a eu une religion qui a structuré la vie civile et civique, qui a été la religion catholique. Ensuite, nous avons inventé la laïcité, puisqu'on a séparé l'Église de l'État. L'islam n'a pas vécu cette évolution en France. C'est une religion qui est là depuis plusieurs siècles, mais qui était très minoritaire, qui n'a pas eu le même développement. Et les citoyens et les citoyennes françaises et français ont un rapport avec l'islam qui date plutôt des dernières décennies, et qui est lié à quoi ? Aux vagues d'immigration, plutôt depuis les années 60. Je décris un fait. Et donc, c'est la faute à personne. Mais du coup, la relation avec l'islam n'est pas la même pour les pouvoirs publics. Qui plus est, l'islam est une religion qui est structurée très différemment. Avec l'islam, il n'y a du coup pas de relation qui s'est institutionnalisée.
C'est même plutôt du rejet, en général.
Si vous me dites les sentiments qu'il y a chez des gens, les gens confondent les choses entre l'islam, l'immigration, la couleur de peau, tout se mélange. Donc c'est ça qu'il faut séparer. Moi, je me fiche de savoir quelle est votre religion. En tant que président de la République aujourd'hui ou candidat, c'est pas mon problème. C'est ça la laïcité. Si je veux tenir cet équilibre, j'ai besoin d'abord de structurer une relation à l'islam qui permette d'être un interlocuteur. C'est ce qu'on a fait avec la loi dite séparatisme.
Justement, elle a posé beaucoup de problèmes.
Mais parce qu'elle a été déformée par certains, puis qu'elle a gêné un communautarisme.
Et puis qu'elle a été aussi jugée comme stigmatisante. Je prends par exemple la dissolution du CCIF en décembre 2020, qui était un organe, enfin une association plutôt, qui avait soutenu votre candidature, vous vous rappelez, en 2017. Et ça a surpris beaucoup de personnes que le CCIF soit dissous, alors qu'il était là pour... L'association était là pour accompagner, aider les personnes victimes d'islamophobie. Donc ça a apporté une confusion sur qui concrètement visait-elle cette loi séparatiste.
Mais pourquoi ? C'est exactement sur la base de ce que je viens de vous dire. Donc, Une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? On dit on veut que nos compatriotes, dont la religion est l'islam, puissent vivre tranquillement. Et donc, on structure, c'est tout le débat qui a été fait, département par département, avec maintenant une organisation territoriale. On sort de ce qu'on appelle l'islam consulaire, c'est-à-dire qu'on dit il faut que les imams, les prédicateurs soient formés en France, ce qui est un signe de reconnaissance et de confiance. Et j'ai dit, j'assume, j'ai été beaucoup attaqué là-dessus, je veux qu'on connaisse mieux la religion et donc qu'on développe justement une école de pensée, d'études universitaires sur ce sujet. On veut que justement cette religion se structure dans le pays. Ce qui là, je pense, pour tous nos compatriotes dont la religion est l'islam, est un geste important, un geste de reconnaissance et de confiance.
Mais vous comprenez que parfois, c'était vos propos, même si vous êtes dans une logique d'ouverture, d'apaisement, vos propos, même si on ne les sort pas de leur contexte, d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est perçu comme blessant par une partie de cette communauté-là.
Juste lesquels ?
C'est-à-dire, quand vous dites, par exemple, l'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, ce sont des mots forts.
Oui,
ce sont des mots forts qui ont un sens, surtout, par rapport à votre position.
Mais c'est tout à fait vrai, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que là, je dis ce que je veux et ce qu'on est en train de structurer avec toutes les Françaises et les Français qui sont de confession musulmane. C'est qu'à côté de ça, il y a une idéologie qui s'est développée au nom de l'islam.
Mais qui a différencié.
Précisément, je différencie. Mais si moi, je ne fais pas ce travail d'investir pour aider la religion à se structurer en France et que les gens puissent tranquillement le faire dans des associations, des mosquées. Mais si de l'autre côté, je ne vais pas m'occuper des problèmes, c'est du grain à moudre à tous les extrêmes. Il existe aussi dans nos quartiers, ce qui est vrai, des gens qui utilisent la religion pour sortir d'autres de la République.
Mais ils sont extrêmement minoritaires.
Mais moi, je suis le premier à dire qu'ils sont minoritaires. Défendu face à Mme Le Pen.
Oui, bien sûr.
Quand ils disent qu'il y a des centaines de mosquées qui déconnent, j'aurais dit non. Par contre, c'est vrai qu'il y en avait. Donc, moi, j'en avais 99 qui ont été signalés, chiffre du ministère de l'Intérieur. On en a fermé 23 et il fallait les fermer. À chaque fois, il y a des recours, on regarde ce qui est fait. Tout ce qui a été fermé a été confirmé par le juge. Il y en a une trentaine. Ça a été changé, c'est-à-dire que les organisateurs ont dit « c'est vrai, ça ne va pas », ils ont ou changé l'imam ou changé l'organisation, et ça, c'est sain. C'est-à-dire que honnêtement, je vous le dis…
Mais c'est encore une intervention de l'État d'une religion.
Non, mais c'est l'intervention de l'État pour respecter les lois de la République.
Mais il n'y a qu'avec l'islam que ça fait comme ça, monsieur, c'est pour ça en fait que ça peut créer aussi des tensions.
Mais non, parce qu'on l'a fait avec les autres religions. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est qu'on l'a fait avec les autres religions. On l'a fait.
Vous me permettez juste de vous montrer, parce que moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que, évidemment, vous êtes président de la République, vous devez mener une lutte contre l'islamisme et toute forme de radicalisation. Mais en fait, la stigmatisation croissante des musulmans, elle s'est surtout vue pendant ces 5 ans, mais comme auparavant, ça s'est aggravé avec le temps, notamment envers les femmes qui portent le voile. Je vais vous montrer une photo, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous la montre et on va en discuter. En fait, cette photo, je vous l'attends, vous pouvez prendre l'iPad. Cette photo, elle a été un moment charnière de votre quinquennat. On voit une maman qui accompagne...
C'est en Bourgogne-Franche-Comté.
Exactement, en octobre 2019.
Monsieur Odoul s'était illustré.
Voilà. Une maman qui accompagne donc son fils, c'est la classe de son fils au conseil régional.
Alors, elle a un peu
Bourgogne
plus qu'un foulard, cette maman.
Non, elle a qu'un foulard sur la photo.
Ah, on dirait. Enfin, c'est voilà,
non,
c'est la photo qui est pas nette.
Non, elle a juste une tunique, mais elle a un peu plus en foulard. Et on se rappelle, à ce moment-là, il y avait une polémique très vive sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait attaquer par même le conseil régional ne savait pas comment gérer elle. Moi, la chose que je veux vous faire réagir par rapport à cette photo, c'est est-ce que vous avez compris la peine de cette maman qui accompagne son fils, qui est volontaire pour accompagner son fils et qui le prend dans ses bras en larmes devant le conseil régional. Est-ce que vous comprenez la peine ? Est-ce que vous comprenez que beaucoup de citoyens se sentent stigmatisés par ce débat permanent sur leur religion ?
Mais vous savez, je le comprends d'autant mieux que c'est le discours que j'ai toujours tenu. Toujours. Et je l'ai retenu là, et y compris quand il a fallu prendre des décisions avec la majorité sur la question des mamans accompagnatrices, j'ai toujours été clair pour dire que je pensais que c'était une aberration d'interdire le voile pour les mamans accompagnatrices. Et ce n'est pas une question de droit, c'est une question de pratique.
Ce qui est l'inverse de Jean-Michel Blanquer, qui à l'époque a dit que le voile n'était pas souhaitable. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette position.
Non, mais ce n'est pas celle que j'ai retenue, puisque ce n'est pas celle qui a été ensuite défendue. Pourquoi ?
D'accord.
Encore une fois, moi, ça n'est pas mon affaire que cette maman mette un voile ou ne mette pas le voile. Ça ne me regarde pas. Si elle vient dans un service public, en tant qu'agent du service public, je lui demande la neutralité. C'est normal, c'est la loi de la République. Mais pourquoi, pour les mamans accompagnatrices, J'ai cette position. Parce que je veux que les mamans puissent mettre leurs enfants à l'école de la République et que si ces mamans n'accompagnent pas à des sorties scolaires ou sportives, elles sortiront leurs enfants de l'école de la République. Et donc, je pense que c'est contre-productif. La République, c'est que je ne vais pas protéger quelqu'un parce qu'il est musulman, j'ai à lui permettre d'être français ou française de confession musulmane d'être totalement respecté dans cette religion, mais de ne rien céder sur son respect des principes de la République. Et il y a eu de l'amalgame des deux côtés. Et donc, à mes yeux, ces discours se nourrissent l'un l'autre. C'est pour ça que moi, je crois dans la politique, je dirais, de respect et d'exigence. Et donc, je me battrai toujours pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation. Et je me bats là aujourd'hui contre l'extrême droite. Je me battrai demain. Et je veux tenir cette ligne. Il ne doit pas y avoir de stigmatisation de nos compatriotes. J'ai d'ailleurs à un moment dit, et je crois beaucoup à cette formule, que la République n'a pas demandé, a demandé à croire modérément ou pas, parce que ce n'est pas son affaire. Mais de la même manière, j'aurai toujours la même exigence à l'égard de tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, de ne jamais m'opposer celle-ci ou leur idéologie, mais de respecter toutes les lois de la République.
Et justement, en 2017, voter pour vous pour faire barrage à Marine Le Pen paraissait évident. Aujourd'hui, beaucoup d'électeurs, justement, déçus sur ce type de sujet, de racisme, là c'est un autre sujet, d'islamophobie, ne semblent pas vouloir voter pour vous, minimisant
même... Parce que
même,
je pense que vous m'offrez l'occasion de clarifier la ligne.
Minimisant même
la différence entre vous et...
Quelle serait...
La différence, elle me semble évidente, on l'a encore révélée.
Bien sûr,
Madame
bien sûr.
Le Pen, elle a un projet, elle, qui n'est pas un projet de laïcité. Soyons très clairs. Elle a un projet d'extrême droite, qui est un projet de lutte contre les religions. Parce que la réalité, c'est qu'on se focalise sur l'islam, mais elle a un projet de lutte contre les religions. Parce que si elle interdit le foulard dans la rue, dans l'espace public, puisque c'est ce qu'elle a maintenant assumé, le principe d'égalité dans le public fait qu'elle va interdire la kippa, la croix. Tous les signes religieux seront interdits dans l'espace public. Ce qui n'est pas la laïcité. La laïcité n'est pas une loi d'effacement des religions. Moi, je défends cette vie en commun et cette capacité à avancer ensemble.
Mais Monsieur Macron, en termes d'engagement, est-ce que vous pouvez prendre des mesures fortes pour cesser la stigmatisation des musulmans en France? Par exemple, comme rétablir l'Observatoire de la laïcité, qui était justement garant de la liberté de culte
pour
tous.
Alors oui, et ça, c'est un engagement que je peux prendre devant vous et que je veux prendre. Je veux même aller plus loin, puisque j'ai lancé une mission, elle va aboutir... si les Françaises et les Français me font confiance après. Mais pour la première fois, j'ai demandé à deux parlementaires de faire un rapport sur les actes, les violences et les discriminations faites à l'égard des religions. Je vous le dis, bienveillance et exigence. Mais moi, je veux qu'on vive ensemble en paix.
Est-ce que l'État n'est pas dans une forme de déni par rapport à ce manque d'impartialité que beaucoup jugent de l'IGPN ?
Non, alors, il y a la question de l'IGPN, puis après, il y a le cadre de déontologie et tout ce dont on parle. L'inspection générale de la police nationale, c'est un corps d'inspection. Par définition, ça doit rapporter à qui? Au directeur de la police, parce que c'est lui qui prend les décisions. Donc, il y a une première évolution sur laquelle on va, c'est qu'on mettra quelqu'un qui a suffisamment d'indépendance dans le sens personnel et de crédibilité. Donc, l'idée, c'est de mettre un magistrat qui va ainsi pouvoir mener les enquêtes. Moi-même, j'assume de ne pas avoir sorti l'inspection générale de la police nationale de la police. Parce que sinon, vous faites une administration indépendante. Et vous ne réglez pas le problème. Pour ça, vous avez la défenseur des droits, qui fait son travail en dehors de l'administration et qui la contrôle, qui dénonce et qui vous permet ensuite d'aller devant le juge. Puisque d'ailleurs, je le rappelle, sur tous ces cas-là, il y a des procédures judiciaires qui existent. Il y a un droit qui est défendu pour les citoyens. Moi, ce qui m'importe d'abord, c'est d'avoir une inspection générale de la police qui fait son boulot, avec des rapports qui sont rendus publics et qui peut faire des recommandations. Ensuite, la difficulté qu'on avait historiquement, à laquelle le ministre a remédié, c'est que les procédures disciplinaires étaient beaucoup trop lentes, voire parfois n'avaient pas lieu. Et donc, il a complètement repris ce dossier en main pour qu'ensuite, sur la base des rapports de l'inspection générale, qui sont une recommandation, les procédures disciplinaires, quand il y en a qui s'imposent, puissent être faites. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment on évite les dysfonctionnements, on rétablit la confiance. Je rembobine le magnéto, si je puis dire, jusqu'au bout. J'ai jamais vu un policier ou un gendarme qui sont aussi nos enfants. Je veux dire, c'est des enfants de la République. Quelqu'un qui s'engage pour protéger, c'est pas quelqu'un qui a envie d'être violent avec ses compatriotes. Il s'engage pour les protéger. Donc, c'est aussi qu'il y a une violence dans la société à un moment qui s'installe et qu'il y a toujours un déclencheur.
Est-ce que sur ce type de sujet, la confiance se gagne pas en gouttes, mais se perd en litres sur ce type de sujet?
C'est une bonne formule. Et je pense, et je la salue, et je la connaissais pas, elle est pas mal. Je l'adopte.
N'oublie pas les droits d'auteur.
Mais sur ce sujet, déjà, faut lutter contre la violence dans les manifestations, dans le truc. Ça, c'est hyper important. Deuxième point, comment on rétablit de la confiance? Moi, je crois en mettant plus de moyens sur le terrain et en permettant à nos policiers, à nos gendarmes de connaître le terrain. Quand le contact est établi, quand les gens se connaissent, déjà ça calme. Deuxième sujet, les équipements. Je crois beaucoup à la caméra embarquée, maintenant qu'on va mettre dans chaque brigade et pour chaque agent. Pourquoi ? Parce que la caméra, c'est ce qui protège un policier d'un comportement déplacé de quelqu'un qui va arriver, et qui, parce qu'il sait qu'il peut être filmé. Et c'est aussi un contrôle déontologique.
Est-ce que les citoyens sont sûrs de pouvoir filmer la police ?
Oui.
Parce que ça, c'est très important
ça,
aussi.
Oui.
Qu'il y ait une protection des deux côtés, c'est-à-dire qu'il faut aussi que les citoyens...
C'est tout à fait vrai, mais le problème, c'est qu'en quelque sorte, nos policiers étaient confrontés à une situation un peu asymétrique. Vous aviez des bouts de vidéo qui partaient, mais elles partaient toujours à charge. On ne savait pas ce que la personne qui filmait avait fait avant ou son copain. Je me mets deux secondes à la place des policiers. Donc, l'idée d'avoir la caméra embarquée permet d'avoir la totalité. C'est transparent. Et c'est une très bonne politique. Les Britanniques font ça, ça marche vachement bien.
C'est à l'initiative du policier, le déclenchement de la caméra
ou c'est... En permanence. Quand il est en service, elle marche. Mais il y aura toujours, les citoyens pourront toujours filmer. Ce débat est étranché. Troisième chose, c'est un meilleur encadrement. Quand vous avez de l'encadrement sur le terrain, et donc des gens d'expérience, les choses se passent beaucoup mieux. Parce que vous avez des policiers, ça vaut aussi pour les gendarmes, qui connaissent l'écosystème, qui savent comment réagir. Et ce qu'on a créé ces dernières années, d'abord en mettant trop vite en sortie d'école dans des situations très dures nos jeunes policiers, c'est qu'on les a mis face à des situations où ils n'étaient pas forcément formés, prêts, dans des environnements qu'ils ne connaissaient pas forcément bien. Donc, vous voyez, mettre plus de moyens, plus d'encadrement, la caméra, former à la déontologie, ce qu'on a aussi renforcé dans la formation de nos forces de l'ordre, c'est tout ça, c'est cet ensemble qui permet de reconstituer la chose. Et puis, de la stabilité dans l'installation pour travailler avec les élus et les associations. Tous nos policiers y tiennent. Hein. Je le dis avec, franchement, beaucoup de conviction et d'engagement, parce que ce sont les premiers à souhaiter que la relation soit la plus apaisée possible avec la population.
Justement, le thème là, c'est les violences policières. Et il y a une mort qui a beaucoup touché dans les quartiers populaires ces dernières années. C'était avant vous, mais ça a quand même traîné sur votre quinquennat. C'est celle d'Adama Traoré.
Oui.
C'était il y a près de 6 ans. Récapituler les faits, il est décédé dans une gendarmerie avec 3 gendarmes donc qui l'ont interpellé. Il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu une manifestation historique à sortir de confinement.
Devant le palais de justice.
Exactement, devant le tribunal de Paris. Donc, c'était en juin 2020. Mmh. Donc, j'y étais en tant que journaliste. J'ai pris des photos, je vous en montrer une. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de quartier qui attendent de vous une réaction sur les contrôles aux faciès, sur la discrimination, parce qu'ils sont mobilisés, ils manifestent contre les violences policières et contre le racisme. Et justement, qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes-là qui sortent de leur quartier parfois pour se mobiliser ?
Bon, le sujet, d'abord, c'est évidemment un drame humain et pour toute une famille. Et donc, moi, je veux que la justice puisse se faire et qu'elle se fasse sans quiétude. Et ce qui est vrai, c'est que les délais, le temps que met la justice est parfois compliqué à comprendre pour beaucoup de gens. Je le dis ça parce que c'est pas un hasard si la population était devant le tribunal et donc c'est aussi pour ça qu'on veut donner plus de moyens à notre justice pour que tout ça puisse être à chaque fois traité plus rapidement. Ensuite, derrière, il y a en effet, revient là, fier d'être noir. Ma couleur de peau est juste une couleur. Je l'ai dit, qu'il s'agisse des contrôles, qu'il s'agisse de logement, qu'il s'agisse d'emploi, moi je veux la vérité. Quand j'en parle avec les policiers, de manière très directe, beaucoup disent que ce n'est pas vrai, qu'ils contestent la chose. Donc,
mais des chiffres le montrent, c'est-à-dire qu'un Mohamed ou un Mamadou a 20 fois plus de risques, c'est les noms utilisés par l'Institut Montaigne notamment, fois plus de risques de se faire contrôler.
Alors, ils le font encore plus.
En plus, vous le disiez chez Brut en 2020, vous reconnaissez justement ça. Mais ça vous a valu une levée de bouclier des syndicats policiers.
Non, mais on s'en est expliqué, c'est pour ça.
Donc, pas forcément d'accord.
Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'objectiver. C'est pour ça que la meilleure façon de faire, c'est de... me semble-t-il, hein, c'est de mettre en place cette plateforme qu'on a mise en œuvre, d'ailleurs un mois après mon engagement, en janvier 2021, qui est de manière indépendante, là cette fois-ci, pour aller dans votre sens, pilotée par la Défenseure des droits, et qui permet d'enregistrer tous les signalements de discrimination. Et quand on regarde les choses, donc, ça nous permet de suivre les cas de discrimination sur les différents contrôles, mais aussi à l'embauche, au logement, etc. Et on voit qu'on a des situations de discrimination à la couleur de peau, plus qu'au prénom, mais elles existent aussi au prénom. Montaigne l'avait montré, on le voit moins sur la plateforme des derniers chiffres que j'ai pu voir. Et le handicap, énorme aussi source de discrimination. Donc, moi, il faut faire 2 choses pour moi à cet égard. La première, c'est continuer de mesurer et d'être intraitable. Et donc, il faut l'objectiver. Pouvoir le montrer et l'opposer. Et la deuxième, c'est d'être intraitable sur la sanction. Et donc, c'est pour ça que je veux généraliser le testing sur l'embauche, parce que ce qui ressort le plus de cette plateforme, c'est l'embauche. Ils disent le pire des trucs, c'est l'embauche, bien devant les contrôles. Et juste après l'embauche, enfin l'entretien d'embauche, l'emploi, c'est le logement. Et donc, moi, je veux mettre en place une politique de contrôle systématique. C'est pour ça que là, on a commencé, ça a été très compliqué, on s'est planté deux fois sur les testings, justement, de discrimination sur la base de ce qu'avait fait Montaigne. Maintenant, on a une méthodologie qui est arrêtée. J'ai dit que toutes les entreprises de plus de 5000 salariés, elles seraient testées dans le quinquennat.
Mais là, vous répondez sur la discrimination à l'embauche. Nous, on aimerait bien que vous répondiez sur le contrôle faciès.
Bah, en fait,
que tel,
sur les contrôles.
Sur comment lutter
non,
contre
mais
les
sur les contrôles policiers, quelles sont les deux façons de faire? Un, c'est de continuer en termes de formation. Et deux, c'est qu'avec la plateforme, on ait les signalements qui permettent ensuite d'agir auprès de la hiérarchie. Et donc, pour moi, c'est transparence, réaction.
Du coup, je vous transmets l'engagement sur ce thème-là. En fait, on a demandé à l'Écho des banlieues, qui est un média qui a été partenaire de Bouscapé, de Rapélite et de Yard sur une plateforme qui s'appelle Surécoute, un projet qui nous ont transmis du coup un engagement. Et ils voulaient vous demander si vous êtes prêt à vous engager à interdire l'usage du LBD et du plaquage ventral par les policiers lors d'interpellations.
Alors, c'est un vaste sujet. D'abord, moi, je ne suis pas le déontologue de la police, ni celui qui décide des techniques de maintien de l'ordre, et je dirais heureusement. Nos policiers, ils ont été confrontés à une violence eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a jamais de violence qui se justifie contre un citoyen. Et donc, c'est aussi pour ça qu'à chaque fois que la déontologie est en cause, on peut aller devant le juge et qu'il y a des procédures. Mais moi, je ne voudrais pas qu'on oublie au moment où on se parle là les centaines de policiers qui ont été blessés, mutilés, arrêtés de travailler parce qu'ils ont subi des violences de citoyens. Je veux dire...
Mais il y en a tout autant du côté des gilets jaunes.
Non, je ne ferai pas de comparaison. Celui qui descend dans la rue pour agresser, ce n'est pas le policier.
Mais si vous ne pouvez pas prendre d'engagement du coup, sur les méthodes, est-ce que vous pouvez peut-être nous donner, vous, un engagement pour stopper, justement ?
C'est que ça puisse s'arrêter. Et donc, ce que je voudrais réussir à faire, en particulier sur ces violences avec toute petite partie de la population, parce qu'on navigue entre deux réalités différentes. Le sujet des LBD est beaucoup sorti sur la question plutôt
des gilets jaunes.
Voilà, des opérations de maintien de l'ordre, ce qui n'est pas la même chose que les contrôles classiques ou que des opérations qu'on peut avoir dans les quartiers. C'est deux choses
mais
différentes.
Mais c'est lié sur les méthodes de...
Mais donc moi, je suis pour évidemment qu'on puisse avoir le maximum de pacification, une politique préventive, mais je ne laisserai jamais nos forces de l'ordre intervenir dans des conditions qui les mettent en danger. Voilà. Donc moi, je suis pour qu'on puisse réduire au maximum tout ce qui est un problème et qui crée de la violence dans la société, qui a créé des traumatismes, mais je ne le ferai jamais en mettant les forces de l'ordre elles-mêmes dans une situation de danger. Parce que je rappelle qu'on a historiquement pris les LBD pour se substituer à des opérations qui étaient...
Mais du coup, donnez-nous un engagement contre le contrôle faciès. Est-ce que vous pouvez prendre face à nous? Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes réélu pour lutter contre le contrôle faciès?
Sur l'ensemble.
Parce que cet engagement, vous ne pouvez pas le prendre. Donc
sur l'ensemble. Je vais être très clair. Sur ce que vous me demandez sur les LBD et les techniques de plaquage ventral, ce que je veux et ce qu'on fera de manière régulière, c'est que, à la fois, les schémas d'intervention et les schémas de maintien de l'ordre feront l'objet de concertations régulières, comme ça a été dans le cadre du Beauvau d'ailleurs, associant les associations, les défenseurs des droits, pour expliquer, rendre compte, et qu'on, de manière continue, on améliorera les choses pour pouvoir pacifier ce contexte. Mais moi, je ne veux pas être démago, je vais être honnête avec vous.
Vous ne pouvez pas prendre cet engagement.
Je ne peux pas prendre cet engagement parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de ce sujet et je ne veux pas non plus donner le sentiment que ce serait le cœur du problème ou ce serait une réponse trop facile. Peut-être qu'on en arrivera là, mais ce sera le choix de ce mécanisme qu'on met en place. Par contre, sur les contrôles et l'ensemble des mesures de discrimination, je prends ici l'engagement très clair qu'on va renforcer les moyens de lutte contre toutes les formes de discrimination, que ce soit les contrôles, que ce soit l'embauche, que ce soit les logements. Et donc, on renforce les moyens de la plateforme et qu'il y aura à chaque fois, côté pouvoir public, une réaction exemplaire et qu'il y aura, côté secteur privé, des réactions sanctions exemplaires.
En 2017, vous aviez fait de la lutte contre les inégalités de genre et les violences sexistes une grande cause de votre mandat. Quand on regarde 5 ans après, malgré les mesures prises, on se rend compte qu'on n'est toujours pas encore à la hauteur de l'enjeu. Beaucoup d'assos féministes, justement, déplorent et regrettent le manque de moyens sur la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que malgré le fait que vous ayez fait en sorte que ça soit une des grandes causes de votre mandat, les résultats ne sont pas forcément, n'ont pas forcément suivi, même s'il y a eu des mesures qui ont été prises
alors,
dans le quinquennat.
Je pense qu'il faut accepter qu'il y a certains éléments qui mettent du temps, même si quand on parle des vies, on voudrait tous régler les sujets le plus vite possible, moi le premier. En 2016, j'ai porté le sujet de l'inégalité femmes-hommes et en particulier du harcèlement de rue, des agressions, comme un sujet clé. Parce que c'est ce qui ressortait des discussions qu'on avait. Ensuite, tout de suite, on a lancé une politique pour l'égalité salariale. Et donc là, les choses avancent. L'index a été mis en place et les premières sanctions arriveront au deuxième semestre 2022. Donc là, les choses montent. Et ce combat, on a réussi à le mener aussi au niveau européen en faisant avancer sous présidence française un texte pour la première fois qui était bloqué depuis 10 ans pour faire de l'égalité dans les conseils d'administration. Il y a le sujet des violences et du harcèlement. Sur le harcèlement, on a avancé, on a fait passer une loi, on a été les premiers à le faire pour lutter contre justement le harcèlement qui permet aux femmes, et ça, faut diffuser l'information, justement, de se protéger et de ne plus subir. Et ce qu'on est en train de faire, c'est de renforcer les moyens pour qu'il y ait plus de présence policière dans les moments où les jeunes filles ou les femmes subissent ce harcèlement.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une formation des agents de police, notamment, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes pour les dépôts de plaintes, par
exemple.
Alors,
je vais y venir plutôt sur les violences, mais vous avez raison. Alors, ça, on l'a commencé, même plus que ça, on l'intensifie. Mais ça, c'est le premier point, parce que sur le harcèlement, on en a mis plusieurs milliers. Le harcèlement de rue, on est sorti de l'omerta. Maintenant, on le sanctionne et on a ouvert cette voie. Et on veut, maintenant, ce qu'il faut, c'est déployer plus de moyens de police à ces moments clés. C'est aussi pour ça que dans la réforme des moyens de la police, je veux qu'on ait beaucoup plus de présence policière dans les transports en commun, en particulier aux heures de pointe, dans les métropoles. Il faut réinvestir pour ça ce qu'on a fait en lien avec les collectivités. Mais ça, c'est clé. Parce que c'est là que beaucoup de ces scènes de harcèlement se passent.
Mais le problème, M. Macron, c'est que souvent, l'agresseur est une personne proche de la victime. On l'a vu pour les cas d'inceste, par exemple. Alors, c'est là où commencent les violences sexuelles.
Alors là, j'en arrive aux violences. C'était plus sur le harcèlement.
Il y a plein de cas où c'est un proche de la personne. On parle aussi des violences conjugales, de toutes ces violences-là, où ce n'est pas tellement une question de protection policière ou de mise en place de sécurité. C'est plus une question de fond, d'éducation, de société.
Alors, vous avez parfaitement raison. C'est un ensemble. D'abord, il y a une chose qu'on a tous ensemble fait ces dernières années. On est sorti de l'omerta.
Parce de l'écoute, c'est l'écoute qui s'est libérée. Les femmes parlent depuis des années en réalité de ces sujets.
Alors, je dirais les deux, moi. Parce que l'écoute s'est libérée, ça rejoint notre... Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé des policiers, des gendarmes, on en a formé des dizaines de milliers, et maintenant, tout policier et gendarme qui sort de l'école, il est formé sur ces sujets. Ce qui n'était pas du tout le cas avant, je vais être clair, et on le sait très bien. Moi-même, je me souviens, je crois que c'était en 2018-2019, je vais au 39-19, je prends un appel. Bon, c'était pas de chance pour lui, c'était un gendarme qui disait oui, bon, on va faire une main courante. Vous me prenez la main dans le sac. Donc, ça, je crois que c'est vraiment en train de changer de culture. On sait écouter, vous avez raison, prendre la parole et ouvrir une procédure. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus, et ça, c'est un acquis. Je pense aussi que la parole se libère, parce qu'on en parle tous beaucoup plus. Et malgré tout, compte tenu de ce que vous disiez, beaucoup de femmes qui subissent des violences, d'abord, ne se pensaient pas et ne se vivaient pas comme victimes, forcément. Il y avait une forme, on avait normalisé un peu la chose. Ensuite, beaucoup culpabilisées, et beaucoup... Et c'est un phénomène contre lequel, d'ailleurs, on n'a pas été au bout, sont sous emprise. Et il y a ces emprises sentimentales, familiales, où on subit un cycle de violence, mais on n'arrive pas à s'en sortir et à libérer la parole.
Ce qui peut être aggravé dans des situations comme le Covid, où les femmes victimes de violences conjugales ne pouvaient pas
échapper à... Le Covid nous a permis d'avancer sur ce sujet. C'est là qu'on a décidé de mettre le 39-19 en 24-24, ce qui est essentiel pour pouvoir appeler dans des moments où le conjoint violent est sorti. Ce qui permet aussi, d'ailleurs, pour nos territoires d'outre-mer... Il faut toujours penser quand on parle de ces sujets, parce qu'il y a beaucoup de violences intrafamiliales. Ça permet d'appeler avec même les décalages. Ensuite, on a mis des points dans les pharmacies, parce que c'est les assos qui nous ont donné cette idée. Mais il y a des endroits où les femmes vont seules. La pharmacie, certains rayons de supermarché, on a mis des points là, d'écoute, des points d'alerte en quelque sorte. On peut appuyer sur, si je puis dire, le bouton pour dire « ça ne va pas ». Donc ça, c'est la parole se libère, on recueille mieux. Et je veux ici nous dire à celles qui nous écoutent que la peur et la honte doivent changer de camp. Ensuite, on a formé les policiers et les gendarmes, on a mis des moyens et les procédures vont maintenant plus vite. On a mis aussi des moyens pour avoir les bracelets d'éloignement et pour permettre d'avoir plus de logements pour accueillir.
C'est la vraie question, par exemple, pour les violences conjugales, c'est la question, c'est l'hébergement, c'est comment on fait pour ces femmes-là sortent.
C'est vrai, maintenant, quand vous parlez avec les procureurs qui sont les plus aguerris sur ces sujets, le vrai truc qu'il faut faire, c'est d'abord éloigner le conjoint violent, en fait. La chose la plus juste à faire, c'est ça. Parce que pourquoi ce serait la femme qui est battue qui devrait partir?
On peut parler.
Et donc, la vraie décision, si on s'y prend rapidement, c'est d'éloigner le conjoint violent et de mettre les bracelets. Et donc là, qu'est-ce qu'on doit faire? On les a créés, on va continuer à en développer. Moi, c'est dans mon plan de charge, si je puis dire. On est en train de changer la pratique pour que tous les magistrats qui s'occupent de ces sujets, justement, quand ce n'est pas une peine d'emprisonnement, implique dans la peine de porter ce bracelet pour être sûr qu'il n'y ait plus de rapprochement vers la personne à l'égard de laquelle vous étiez violente. Le deuxième truc qui est pour moi très important, c'est le fichier qu'on va mettre en place.
Je voulais vous en parler, justement.
Ça, c'est très important parce que c'est les associations qui l'ont proposé. Comme on fiche des gens qui ont des antécédents en matière, justement, de rapport aux enfants ou des antécédents...
L'accusation de viol et d'agression sexuelle, par exemple.
Exactement. Et donc là, les gens qui ont des antécédents en termes de violence intrafamiliale ou à l'égard de conjointes qu'ils ont pu avoir ou même dans leur plus jeune âge, ils seront fichés. Et donc, quand il y a une plainte sur quelqu'un comme ça, on va beaucoup plus vite sur la réaction.
Pour qu'on comprenne bien, par exemple, est-ce que quelqu'un...
C'est un fichier administratif.
Bah, on va prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un comme Gérald Darmanin, qui est déjà accusé de viol, pourrait figurer sur un de ces fichiers?
Je ne pense pas, parce qu'il a été blanchi, puisque...
Il y a encore une procédure qui est en cours.
Oui, mais il y a une procédure, celle dont vous faites part, sous votre contrôle, vous pourrez vérifier, on pourra le dire. Mais je crois que pouvoir vous dire que le juge a tranché.
Donc ça ne suffira pas juste d'être accusé?
Non, parce que c'est quelqu'un qui... Si moi, je vais vous dénoncer de quelque chose, et que on va devant le juge, et que le juge dit « c'est faux, cette personne a menti », ce qui est, je crois, ce qui s'est passé pour le ministre Darmanin.
La procédure a été relancée, d'autres preuves ont été amenées au dossier.
Oui, donc mais il y a une décision, là, pour le coup, qui est close. Et ce n'est pas quelqu'un qui a porté des coups.
Mais en viol, c'est aussi une violence au-delà des coups.
Pardon, parce qu'on parle de...
Accusation de viol, je veux dire, c'est au-delà de violence physique.
L'accusation par une personne ne suffit pas à faire de vous quelqu'un même qui est suspect sur un fichier administratif.
Une condamnation de justice qui nous met automatiquement dans ce fichier-là, c'est ça ?
Soit des faits qui sont établis et qui sont avérés. Parce que sinon, mettre toute la société.
Mais du coup, vous pouvez mettre en permanence, sans doute, la parole des victimes. C'est-à-dire que si vous partez du coup... Parce que la manière dont vous l'avez annoncé, c'était en disant les hommes accusés de viol ou d'agression sexuelle, dont le comportement a été répété plusieurs fois, feront donc objet de ce fichage administratif. Comme ça sera un lancement d'alerte pour vous, pour les repérer. Donc du coup, si vous vous inversez, c'est comme si vous dites que les victimes, la parole des victimes est mise en doute. Si vous attendez que le jugement, je veux dire, alors qu'on sait que la justice ne prend pas forcément...
C'est pas une question de mettre en doute la parole des victimes, c'est juste que nous sommes en état de droit.
Il faut un élément concret, il faut des éléments concrets.
Et donc, dans un état de droit, vous avez la parole de la victime, elle est reçue, ce qui était mal fait avant. Maintenant, on a amélioré ça. On l'a fait prospérer. Il y a un tiers de confiance qui est le magistrat qui va regarder, parce que vous avez aussi un droit de la défense. Et on ne peut pas rentrer dans un système qui va être un système sinon de dénonciation permanente, parce qu'à ce tarif-là, on peut avoir tout le monde dans un tel fichier. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce qui va rapidement se passer.
Mais donc, ça change du coup comment vous l'avez annoncé, parce que comment c'était annoncé, c'était vraiment sur la base d'accusation, c'est-à-dire avant condamnation judiciaire.
Il y a des gens qui avaient, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir, avant même une condamnation judiciaire, il y a des gens qui ne vont pas devant le juge et qui ont des procédures de décision administrative, de médiation, c'est-à-dire sans aller jusqu'au judiciaire, vous pouvez tout à fait avoir, sur ces cas-là, des procédures avec des décisions fermes qui sont données, qui ne sont pas forcément du judiciaire. Parce que si vous m'accusez de quelque chose, que je le reconnais, il peut y avoir à ce moment-là un protocole qui est établi. Je ne vais pas aller devant le juge en disant que vous mentez. À ce moment-là, je serai dans le fichier.
Je vais quand même vous demander un engagement en me faisant un peu le relais des associations féministes.
Est-ce
que si vous êtes réélu, on est un peu pris par le temps de toute façon. Est-ce que si vous êtes réélu, Monsieur Macron, vous vous engagez à ne plus avoir dans votre gouvernement un ministre accusé de viol ou d'agression sexuelle?
Non, je ne prendrai jamais un tel engagement. Parce que je crois à la présomption d'innocence.
Mais est-ce que vous vous rendez compte de la symbolique que ça représente?
Mais je vous le dis vraiment, parce que je me bats. Il n'y a aucun président qui s'est autant battu que moi sur le sujet d'égalité femmes-hommes et contre les féminicides. Et donc, je vais prendre un engagement.
Mais vous avez très peu parlé des féminicides, on en a eu près de 600.
Mais vous rigolez, j'ai très peu parlé, je n'ai pas arrêté de me battre, on a lancé un Grenelle, je l'ai fait.
Mais la parole présidentielle est importante, vous aurez pu prendre position.
Moi, j'en ai beaucoup parlé. Et je me suis battu. Et donc, en y mettant les moyens, pas simplement au ministère et avec les associations, mais à l'intérieur et à la justice. Et j'ai parlé des féminicides devant les policiers et gendarmes, je vous renvoie à mon discours de Roubaix, et devant les magistrats, je vous renvoie au discours de Poitiers. Donc, je l'ai fait et je le mets au cœur de la République. Ça, c'est un engagement que je prends. De toutes mes forces, je me battrai pour éradiquer les féminicides dans notre société.
Donc plus de féminicides pour le deuxième quinquennat?
Mais ça dépendait que de moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut mettre les moyens en termes de prévention. Vous aviez commencé par là tout à l'heure. Et donc, former nos enfants et nos ados dans le respect de l'autre et n'accepter aucune violence. Ensuite, c'est de mettre les moyens sur l'intérieur, la justice, les associations pour protéger ces femmes qui subissent le pire. Par contre, une fois que j'ai dit ça, je suis pour la libération de la parole. Je suis pour qu'il y ait justement, qu'on lutte ardemment contre les féminicides et continuer de le faire main dans la main avec les associations. Mais jamais je ne souscrirai à la République du soupçon et du doute. Jamais.
En bilan de votre quinquennat, vous avez annoncé une baisse du chômage, qui est notamment due aussi, entre autres, à l'augmentation de contrats d'apprentissage. Bruno Le Maire, votre ministre, a annoncé qu'un million d'entreprises avaient été créées en 2021. Mais quand on regarde bien ces chiffres, on s'aperçoit que 2/3 des entreprises créées sont sous le statut de la micro-entreprise, dans le secteur du transport, de la livraison notamment, soi. Parce que ce sont des statuts précaires, statut de la micro-entreprise, surtout dans le transport ou dans la livraison.
Oui. Vous avez totalement raison, ce phénomène existe. Maintenant, je regarde les chiffres et je vais là aussi distinguer les choses. Vous avez beaucoup de création et de destruction d'emplois à travers la micro-entreprise qui existe depuis une dizaine d'années, en particulier dans nos quartiers. Beaucoup vont mourir dans les mois ou les années qui viennent. Donc, il y a une très grande fragilité et précarité. Vous avez parfaitement raison. En même temps, c'est un élément qu'il ne faut pas stopper, il faut plutôt le réguler. C'est ce qu'on a fait, par exemple, avec le phénomène d'ubérisation. Moi, je n'étais pas pour l'interdire. Je le défendais il y a 5 ans, d'ailleurs, auprès de beaucoup de médias. Mais on l'a laissé se développer. Par contre, maintenant, on le régule. C'est pour ça qu'on a créé un droit des plateformes, qu'on a mis en place des syndicats, qu'on a mis en place une régulation avec un droit du travail pour protéger et qu'on met des contrôles. Et il en faut parce qu'il suffit d'aller voir, je ne citerai pas de marque, mais beaucoup de chauffeurs-livreurs pour s'apercevoir qu'il y a des contrats de sous-traitance et qu'il y a beaucoup de précarité derrière. Et c'est ce qu'on est en train maintenant de pousser au niveau européen. Ça, c'est un phénomène. Vous avez parfaitement raison.
Oh, c'est des effets de bord, c'est ça?
Non, c'est un phénomène, mais il faut qu'on garde la part vitalité de l'économie création, mais qu'on arrive à créer de la stabilité. À côté de ça, pour les jeunes, on a créé, ça n'a rien à voir avec la précarité, 700 000, 710 000, là, au moment où je vous parle, apprentis par an. Quand j'ai été élu, il y en avait 260 000. Ça, c'est l'inverse de la précarité. Parce qu'un jeune qui est apprenti, dans plus de 80% des cas, il va avoir un emploi qui sera un emploi stable. Donc ça, c'est pas les mêmes qu'on trouve. On parle pas des mêmes catégories.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc ça, je le dis parce que pour nos jeunes, c'est une source. On a très longtemps dans notre pays décrié l'apprentissage. L'apprentissage et l'alternance, c'est un énorme levier. Et qu'on soit en lycée pro, qu'on soit en lycée général, qu'on soit en filière universitaire ou en filière courte, l'apprentissage, c'est le meilleur moyen d'accéder à un job. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a derrière un employeur quelqu'un qui est intéressé par prendre un apprenti. Il vous met le pied à l'étrier, il vous connaît aussi. Et c'est ce qui, par rapport à tous les sujets de discrimination, change les représentations. Je vais être clair, quelqu'un qui a des idées préconçues, il dit « Rachid, moi, je ne vais pas le prendre ». Le jour où le lycée pro la filière en BTS envoie un jeune homme qui s'appelle Rachid en contrat d'apprentissage, comme vous êtes payé pour le contrat d'apprentissage, j'ai mis une aide substantielle. Je prends Rachid. Et moi, j'en ai vu plein de chefs d'entreprise dans ce cas-là, plein. Des boulangers en passant par des maçons dans des entreprises plus grandes, du bâtiment en passant par le tertiaire, qui ont reconnu. Parce que ça ne devient plus un prénom avec des représentations qu'on peut avoir avant. Ça devient un jeune avec un visage, des compétences, quelqu'un que je connais et avec qui je construis une histoire. Et bien souvent, soit je vais le garder dans l'entreprise, soit en tout cas, il aura un sésame qui est son apprentissage et qui lui permettra d'aller ailleurs. Donc, l'apprentissage, moi, je veux qu'on dépasse le million. Et ça, pour nos jeunes, c'est un truc formidable. Ensuite, à côté de ça, on a créé beaucoup de dispositifs. La plateforme Un jeune, une solution, pour moi, est un très grand levier pour 4 millions de jeunes et les aider à aller soit vers l'apprentissage, soit pour ceux qui sont ni en formation, ni en emploi, le contrat d'engagement jeune qu'on a créé il y a quelques semaines, qui, pour moi, est un levier très important, qui permet d'avoir une rémunération et un accompagnement pour le jeune. Et puis après, il y a les créations de jobs. Quand on dit que sur le quinquennat, en net, on a créé 1 200 000 emplois, là, ce n'est pas les mêmes choses que les micro-entrepreneurs, etc. C'est de l'emploi salarié à une très grande majorité des CDI. Ça s'appuie sur nos
réformes. Quand on parle de précarité, on parle forcément aussi du RSA. Vous avez fait une annonce très récemment qui disait que vous voulez conditionner le RSA à des heures de travail, 15 à 20 heures par semaine.
Pas de travail.
Vous appelez ça autrement.
Formation, insertion, réinsertion. Non, mais c'est hyper important. Parce que si c'est du travail, c'est payé au SMIC.
Mais qui est considéré en fait comme du travail pour les concernés. Vous comprenez qu'il y a une levée de bouclier et que certains le vivent comme une violence personnelle.
Non.
Et donc c'est quelque chose sur lequel vous. Parce
non,
que c'est l'engagement, peut-être qu'on peut parler de l'engagement.
Non, mais je vais vous dire. Il y a des vies empêchées.
Pour vous, c'est un problème de compréhension, c'est ça?
Non, mais c'est un problème. Il faut être cohérent. Qu'est-ce que c'est le RSA? On l'a créé en 88. Ça s'appelait le revenu minimum d'insertion. Michel Rocard. Puis on l'a fait évoluer. C'est devenu le RSA. Il y a avec ça, normalement, un contrat. Dans plus de 60% des cas, ce contrat est tombé à la trappe. Pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en fait, parce qu'on a... c'est pas la faute des gens, c'est la faute des pouvoirs publics. On a organisé les choses d'une telle façon qu'on ne suit pas les bénéficiaires du RSA comme il faut. Donc, on distribue une aide qui est modique, ce qui est déjà une dignité. Beaucoup de pays ne le font pas. Mais avec cette aide, il y a aussi un contrat pour aider la personne à se réinsérer, parce que ce n'est pas un statut d'être au RSA. C'est le minimum minimorum pour survivre. L'idée, c'est d'en sortir du RSA. Moi, c'est ça qui m'importe. Si vous voulez réduire la pauvreté, encore plus la précarité, il faut aider les gens à sortir du RSA. Vous n'en sortez pas par la grâce du Saint-Esprit, pour revenir aux choses religieuses, mais par un engagement de la société et de vous-même. Le but n'est pas simplement le niveau de l'allocation et de distribuer une allocation, c'est en même temps de distribuer de l'aide, de l'insertion, du conseil pour permettre de retrouver un emploi. La réalité, c'est que ça n'aurait jamais dû cesser d'être comme ça. Par contre, je vais être très clair, si vous êtes bénéficiaire du RSA, il y a deux choses auxquelles je tiens. La première, c'est que votre aide, vous allez la toucher, si les Françaises et les Français me font confiance, de manière beaucoup plus simple et directe.
Ça, c'est un engagement que vous prenez.
Ça, c'est un engagement que je prends. Je veux l'appeler la solidarité à la source.
C'est l'engagement sur la précarité.
On l'a fait, et c'est pour moi le plus structurant. On sait faire techniquement, on a fait le prélèvement à la source pour les impôts. Pour toutes celles et ceux qui payent des impôts, on a simplifié nos vies, on a lutté contre la fraude massivement, et maintenant, on ne se pose plus la question de savoir, c'est beaucoup plus simple, et c'est en temps réel. Prélèvement à la source. On va permettre de lutter contre l'économie la plus cynique, qui est l'économie sur ce qu'on appelle le non-recours. C'est que des gens qui ont droit à des aides, parce que c'est hyper compliqué, ne vont pas les chercher. Et donc, ce sera automatique. Et à côté de ça, quand vous êtes à une de ces aides, et que vous reprenez des heures de travail, pour reprendre votre point, vous aurez un système qui ne vous désincite plus à travailler. Vous pourrez pendant tout un temps les cumuler. Et je vais être très clair, quelqu'un qui est au RSA, qui a quelques heures de travail, ces heures de travail, elles doivent être payées au SMIC horaire. Le RSA, ce n'est pas pour un travail.
Donc pour vous, c'est le système qui a désincité
les bénéficiaires du RSA
à...
J'ai une preuve.
Mais on parle de 550 euros par mois quand même.
Mais bien sûr, c'est pour ça que...
pour désinciter des gens, je veux dire.
Ce n'est pas désinciter. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand je dis le système est désincité, parce qu'on n'a plus investi pour accompagner les gens. Ce n'est pas une question du tout parce qu'on leur donne 550 euros.
Donc ce n'est pas leur faute à eux, c'est ça?
Non, mais c'est ce que je suis en train de vous dire.
Oh, le système.
Quand je dis le système, c'est ni leur faute à eux, ni la faute des gens qui sont de l'autre côté du guichet.
Mais du coup, ce qu'on garde comme engagement, parce que je pense qu'il faut qu'on finisse l'interview. Voilà.
L'engagement au niveau de la précarité.
Pour le RSA, mais c'est
le plus important pour moi, c'est la solidarité à la source. C'est que là, dans le quinquennat qui vient,
c'est pour verser le versement du RSA directement à la source.
Qui touchent le RSA, les APL, donc les aides au logement, pardon, les allocations familiales, c'est-à-dire toutes ces prestations qu'on appelle non contributives, toutes ces aides, eh bien, elles seront simplifiées et ce sera automatisé pour lutter contre les complexités administratives et surtout tous nos compatriotes qui, en fait, n'y ont pas accès parce que c'est trop complexe.
On va finir là-dessus.
On se reverra dans deux ans pour voir si vous avez mis en place tous ces engagements.
Très bien.
Parfait. Bon, on est carré.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.